parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre les peuples haïtiens, surtout les peuples des bidonvilles.
Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nos gars nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la jeune fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour, bon matin, bienvenue à cette nouvelle émission de En bas à gauche. Vous êtes avec Maud et Blandine en studio et vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. Il est 9h du matin. Aujourd'hui, au menu de l'émission, nous allons vous parler du Marathon des sans-abri qui sera diffusé à Radio Centre-Ville après-demain, soit le 24 février. Donc, une nuit qui donne le micro aux itinérants et itinérantes de Montréal. Le Marathon des sans-abri. On s'entretiendra en direct du Mexique, en fait, de la ville de Oaxaca, dans le sud du Mexique, avec Mylène qui nous parlera du mouvement des professeurs de la section 22 de Oaxaca, un mouvement qui a connu une forte répression il y a quelques jours, pas aussi fort que le conflit en 2006, mais un peu avec les mêmes revendications, si on peut dire. Et enfin, la deuxième heure de l'émission sera dédiée à un spécial droit au logement. Nous vous parlerons de la caravane du Frappru qui a sillonné le Québec la semaine dernière, ainsi que la revendication des associations de locataires en faveur d'un registre des baux. Alors, on poursuit en musique. Alors, en attendant de rejoindre Mario, un participant de la Nuit des sans-abri, par téléphone, nous allons enchaîner avec notre entrevue qui porte sur le Mexique. Blandine?
Oui, alors c'est une entrevue avec Mylène, qui est en ce moment à Oaxaca, donc qui était là dans cette ville du sud du Mexique la semaine passée, lors de violentes répressions. En effet, le président du Mexique, Calderón, s'est rendu à Oaxaca, pas simplement pour visiter les gens, mais bien pour aller inaugurer une école publique, alors qu'il y a en ce moment des campagnes et des pressions très fortes contre des projets de loi et des cas de privatisation, en fait, à tout un pratique de l'éducation. Donc, des professeurs de la section 22, la même section 22 qui a été connue internationalement lors du soulèvement de 2006, donc c'était la grande grève qui avait mené à ce soulèvement-là, se sont mobilisés et il y a eu une répression intense. Alors, bon, l'occasion de parler de la situation du 15 février dernier, mais aussi de parler un peu des enjeux qui l'entourent. Alors, on va écouter l'entrevue avec Mylène. C'est malheureusement pas la meilleure qualité d'entrevue, mais on peut quand même comprendre l'essence du mouvement. Alors, merci d'être avec nous. On va essayer de faire ça donc en direct depuis Oaxaca pour parler des événements un petit peu de la semaine passée, donc des manifestations et de la répression qui ont accompagné ces manifestations-là les 15 et 16 février dernier. Est-ce que tu peux nous parler du contexte un petit peu?
Le 15 février dernier, il y a eu une répression très forte à Oaxaca. La brutalité policière a été démesurée. Donc, la raison principale pour laquelle il y a eu cet affrontement-là entre les manifestants et les policiers, c'est que Felipe Calderón, le président du Mexique, venait à Oaxaca. Sa venue a été annoncée une journée à l'avance. Juste sa venue à Oaxaca, en fait, ça a été pris comme un signe de provocation de la part de la population pour trois principales raisons. Pour la première, on se rappelle la répression qu'il y a eu en 2006 contre l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca. Donc, Felipe Calderón est en partie responsable de la répression qu'il y a eu. Donc, les gens ont une mémoire fraîche encore de ce qui s'est passé. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle nous nous sommes manifestés, qui sont en désaccord avec ce que le président vient ici. La deuxième, c'est que depuis la présidence de Calderón, il y a la guerre qui se passe contre supposément le narcotrafic, et on a un résultat de plus de 30 000 morts au Mexique. Donc, les gens, ils sont complètement. Il n'en peut plus, ils sont de la violence qui se passe à l'intérieur du pays. C'est surtout dans le Nord, mais dans le Sud, il y a une réponse très forte à la violence qui se passe en ce moment. Puis, la troisième, c'est que deux jours avant, il y avait annoncé des réformes au niveau des écoles privées qui seraient déductibles d'impôts. Donc, ça, c'est un coup direct à l'éducation publique. Puis, ça serait au niveau de maternelle, si on veut, l'université ne serait pas déductible d'impôts, mais les autres, oui. Puis en ce moment, comme la plupart des financements d'écoles publiques ont été coupés, ben ça va donner un avantage aux écoles publiques. En ce moment, c'est la section 22, le syndicat des professeurs de Oaxaca, lutte constamment pour l'éducation publique. Il est venu à Oaxaca pour inaugurer une école privée qui s'appelle La Salle, qui est une des écoles les plus riches de Oaxaca, super conservatrice, catholique, qui vont favoriser encore à la classique. Donc, la plupart des professeurs se sont mobilisés pour manifester leur désaccord face à la venue du président, pour toutes ces raisons. Donc, vers 8h, j'aimerais comme mentionner que c'est pas toute la section 22 qui se sont mobilisées normalement. La section 22 compte plus de 70 000 profs, professeurs. Puis, en ce moment, il y avait une représentation, c'était pas un accord de la section que tout le monde allait venir manifester comme les grandes marches massives qu'on est habitué de voir à Oaxaca. Sinon, c'était une représentation. Donc, il y avait environ 300 professeurs qui se sont mobilisés le matin à partir de 8h du matin. Vers 11h, il a commencé à avoir un affrontement avec les policiers directement. La mobilisation s'est faite à côté du local de la section 22 qui est dans le centre de Oaxaca, près du centre historique. Et les policiers entouraient le centre historique. Donc, quand les manifestants ont voulu rentrer dans le centre historique, dans le Socalo de Oaxaca, c'est là qu'il a commencé à avoir des affrontements. J'ai vraiment entendu que les profs et les professeurs n'étaient pas en train de faire aucun acte de trouble pacifique. Évidemment, ils sont habitués à se confronter à la police. Donc, quand ils ont vu que la police a commencé à les confronter, à les repousser, ben, les professeurs ont répondu puis ils ont essayé de briser la ligne policière. À ce moment-là, il a commencé à avoir les gaz de lacrymogène, les balles de plastique. Les policiers ont commencé à tirer sur les gens pour réussir à défaire la mobilisation. À ce moment-là, la plupart des radios communautaires de Oaxaca ont commencé à faire un appel de solidarité avec la population pour venir renforcer la mobilisation. Parce que environ le nombre de policiers était autant que le nombre des manifestants au début du matin. Donc, il y avait de 300 à 400 policiers qui étaient là, en plus des militaires qui étaient à l'entour. Calderón est un des grands qui promouvoit l'Alliance pour la qualité de l'éducation. depuis 2008-2009. Donc, il y a eu plusieurs mobilisations dans tout le pays pour rejeter cette réforme-là. À Oaxaca, c'est majoritairement contre. Gabino, il fait un discours, un double discours, on peut dire, en ce moment. Il dit qu'il y a une grande appui de la population. Il joue le discours populaire, oui, je discute avec vous, ce que vous voulez, on ne va pas nécessairement faire passer tout le relais des politiciens. Mais en même temps, il fait des négociations en arrière. Donc, avec l'AC, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il semble qu'à Oaxaca, il ne peut pas la faire passer d'un bloc parce que la section de ne va pas l'accepter. Les mobilisations peuvent être beaucoup trop grandes. Ils ont vu ce qui s'est passé ici en 2006. Donc, ils font quand même attention à ce qu'ils veulent faire comme main-d'œuvre ici pour, selon les lois, comment ils vont les faire passer. Donc, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils font passer par bloc, par morceau par morceau. Puis, comme par exemple, il y a le carrière magistériel qui a fait carrière magistériel, je crois. Puis, supposément pour évaluer la compétence des professeurs à travers un examen. Ça touche directement les droits laboraux que les professeurs à Oaxaca ont lutté, les syndicats, les syndicats, les droits à l'ancienneté. Toute cette loi-là, ça va tout affecter aux droits des travailleurs. Il va y avoir un examen. Bon, la plupart des gens, on s'entend que les examens, ils sont manipulés. Ils sont pas. Les professeurs ici n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances que ce que l'examen va leur demander. Donc, les gens que ça fait 30 ans qui sont professeurs vont avoir à passer un examen pour évaluer leurs connaissances. Et que la plupart des professeurs, ils sont contre. Un des autres trucs, c'est que ça atteint directement la laïcité de l'éducation. C'est quand même, ça fait 12-15 ans que ça a été une réforme qui a été mise au Mexique. Donc, la laïcité, ça va être atteint directement. Le PAN, le Parti conservateur, est très catholique. Et lui, qui vient d'inaugurer, son plan, c'est de vouloir remettre les écoles catholiques au Mexique. Et on sent pas que c'est un peu revenir en arrière, non? Donc, ça fait partie des trucs de l'AC dans les bases. Mais on se rappelle, il y a eu un an environ, il y a eu des grosses mobilisations à Morelos. Puis la répression, elle a été super forte contre la population. Donc, on s'attend à ce que si. Mais s'ils font la même chose à Oaxaca, ben, ça va faire comme il s'est passé le mardi dernier. L'autre truc lié à la AC, c'est que je pense qu'au Mexique, en ce moment, ce qu'il faut voir, c'est pas nécessairement l'Alliance pour la qualité de l'éducation de manière isolée, sinon les réformes structurelles qui sont en train de faire à l'intérieur du pays. Donc, ces réformes structurelles-là, il y en a plusieurs. Il y a l'AC, il y a la loi de l'ICI qui est sur les droits de pension, sur la loi judiciaire, sur la privatisation de Pemex, il y a plusieurs privatisations qui sont en train de se faire. Puis là, c'est toutes les lois qui ont passé, plus ou moins, les attaques aux syndicats qu'il y a eu cette année. Dernièrement, il y a eu une attaque au CIMO, c'est le syndicat des Mexicains du Tribunal fédéral et à l'entour. C'était un des syndicats les plus combatifs depuis plus de 100 ans. Ils ont réussi à le faire tomber. Il y a eu des milliers de Cananéens qui ont été aussi écrasés. Donc, leur plan, c'est quand même d'écraser les syndicats les plus combatifs. Donc, on explique en ce moment, ce qui reste, c'est la section 22.
En bas.
Comment je vois la vie, je ne vais pas vous mentir, je ne suis qu'un sans-abri. Je vois la vie en var et contre tout souci, du printemps à l'hiver, je brûle des calories. Dans nos jungles urbaines, il y a peu d'arbres, ils sont petits, on a enterré les graines sous l'asphalte et le béton gris. On cultive les bâtiments de la cave au grenier, si bien que finalement, on plante un toit pour se cacher. prendrait des tribus, des communautés civiles qui jardineraient au-dessus des rumeurs de la ville. Pour satisfaire les besoins, pouvoir au nécessaire et chanter du soir au matin les joies du retour.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche et on écoutait une chanson de Pascal Chaumont, Règne de la Verdure. Et c'est une chanson dont les paroles ont été écrites par Mario Paquette. Mario Paquette qui est un personnage bien connu des rues de Montréal et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mario.
Bonjour, Brandine.
Alors, je te décris souvent comme un personnage bien connu parce que quiconque se promène dans les rues de Montréal t'a déjà au moins croisé une fois, mais je vais te laisser te présenter en tes propres mots.
OK. Ben, je m'appelle Mario ou l'aïeul, peu importe. Ben, la toune qu'on a entendue, c'est un texte de moi qui prêté à Pascal Chaumont pour qu'il fasse une tune sur son album. Puis là, présentement, elle est en single, puis c'est ça. je suis dans la rue, je vis dans un campement sur Saint-Laurent, puis en gros, c'est ça, ouais.
Puis, notamment... Ben oui, tout à fait. Tu es notamment le fondateur d'un organisme qui est en train de démarrer, qui s'appelle la Niche des Maîtres, donc qui est un nom qui sonne bien, mais qui est aussi qui réfère aussi à la réalité de vivre avec ses chiens et qu'il y a pas de, c'est quand même une des particularités qui te rend bien connu.
En fait, la Niche des Maîtres, c'est ça, c'est on a incorporé cet organisme-là cet automne. Puis on compte tenir notre Assemblée générale dans les prochaines semaines. Pour le but de ça, c'est d'avoir de développer des espaces où on peut être avec nos chiens, où on peut avoir diverses activités, puis avoir nos chiens avec nous. Parce qu'on est des maîtres de chiens, hein, puis on a besoin de nos bêtes, là. On veut pas avoir à les laisser dehors pendant qu'on va faire différentes choses qu'on a le goût de faire. Fait que on s'organise, on se monte des campements, en fait, aussi en fonction de ça, en fonction de autres.
L'idée de l'assemblée de la Niche des Maîtres dans les prochaines semaines, ça va se faire dans le cadre d'une vigile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de vigile?
Dans le cadre d'un événement qu'on appelle l'État général d'organisation de rue à gestion équitable, égorgée. C'est en même temps, on va tenir une vigile qui s'appelle la vigile de paix globale, avec comme thématique la rue saute aux airs au-delà du profilage. Parce que c'est sûr que le mois de mars s'en vient, la manifestation contre la brutalité policière va se passer au milieu du mois. Nous, on veut comme enrober un petit peu cet événement-là. En sensibilisant la population sur la question du profilage particulièrement, profilage social, puis donc on va distribuer de l'information, on va parler aux gens pendant 40 jours de temps jusqu'au 31 mars.
Puis parmi
c'est les... ça, en gros, l'événement va on cherche à attirer des gens, pas juste des gens de la rue, mais des gens qui militent, des gens qui veulent concevoir peut-être une manière plus saine socialement de vivre.
Puis justement, pourquoi faire ce genre d'organisme en dehors de... Pourquoi justement faire soi-même ce type d'organisme-là ou ce type d'autogestion-là?
Allô?
Parce que oui, j'imagine que organiser ce genre d'événement-là va aussi avec certaines contraintes par rapport à la ville, des règlements ou encore la vie avec les chiens. C'est quoi les difficultés qui sont rencontrées dans ce processus-là d'organisation?
Ben, je dirais que tu sais, il y a certaines questions logistiques à tenir compte. C'est sûr que, bon, la question, par exemple, de la police, tout ça, bon, moi, j'ai déjà une relation que j'entretiens depuis un certain temps avec avec les policiers, question de d'avoir la possibilité de vivre ma vie sans trop être dérangé, d'être harcelé. Mais dans cette optique-là, donc j'ai déjà je me suis déjà fait accepter sur un terrain vague qui va servir en fait à tenir aussi la vigile et l'Assemblée générale de la Niche des Mailles. Alors de ce côté-là, c'est quand même pas si mal. C'est sûr que toutes sortes d'autres questions d'organisation aussi, là. Par exemple, aujourd'hui, on va plus s'occuper de monter le campement qui va servir un petit peu à ces événements-là. Parce qu'on a un petit campement, disons, qui nous sert à nous personnellement. Là, on est deux personnes qui habitent dans ce petit campement-là. Puis là, on a reçu la visite de Pascal Chaumont, justement, qui vient passer 3 jours dans la rue avec nous. Et donc, on commence à être un petit peu tassé dans notre petit abri là-bas. Puis on a besoin de quelque chose de plus fonctionnel aussi, de plus organisé, question de avec les participants à la vigile et à l'Assemblée, on veut pouvoir aussi comme se faire dire pas, s'organiser, travailler un peu sur les différents projets qu'on a. Alors, on a besoin de trouver de l'électricité, on a besoin de s'organiser un espace physique, un espace de rencontre et tout ça. Fait que on va travailler là-dessus pendant les prochains jours, puis au fur et à mesure que les gens vont s'intégrer à la vigile puis à l'événement lui-même, ben on va prendre un petit peu plus d'ampleur.
Puis toi, ça fait.
Oui, il y a des difficultés, il y a des petits. C'est pas efficace à arranger quand on est dehors comme tel, qu'on n'a pas un endroit fixe là où on paye le loyer et tout ça. Fait que mais ça fait partie de la vie de rue d'une certaine façon. On a besoin de le faire même juste pour pouvoir dormir le soir, hein.
Puis toi, ça fait de nombreuses années que tu vois aller la vie des rues de Montréal. De ton point de vue, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en termes, est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Est-ce que c'est plus facile parce qu'il fait moins froid?
Je dirais que moi, j'ai remarqué un changement récent. C'est sûr qu'il y a, si on remonte à 10, 12 ans, peut-être 15 ans même, la vie de rue était peut-être un petit peu plus... accepté socialement peut-être même. Donc il y avait certains mouvements de rue qui étaient dynamiques, qui étaient présents. Donc il y a beaucoup moins de gens qui surtout de gens qui choisissent de vivre dans la rue. Il y en a de moins en moins. On en vient à un point où est-ce que c'est de la gestion de la gestion de problématiques, si on veut. Mais je dirais que cette année, j'ai remarqué cet hiver en particulier, qu'il y a une certaine tolérance qui n'était pas nécessairement là dans les années précédentes, où est-ce que il y avait vraiment une volonté, on dirait, des autorités de faire tasser tout le monde qui était dans la rue. Là, cette année, on dirait qu'il y a un petit peu plus de compréhension. Je sais pas si le rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse de l'année passée a sonné peut-être quelques cloches à quelque part, là, que des gens se sont aperçus que peut-être qu'il allait un petit peu trop loin. Mais puis la question de l'itinérance aussi depuis quelques années est sur les lèvres d'un petit peu tout le monde là, à différents moments, surtout pendant l'hiver. Alors je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus de tolérance que certaines autres années que j'ai remarquées.
Alors, on va te retrouver jeudi matin, ici même sur les ondes de Radio Centre-Ville, mais aussi sur les ondes de 40 radios à travers le Canada, puisque tu seras avec nous sur un panel du Marathon des Sans-Abri, alors à 6h du matin jeudi. Puis sinon, d'ici là, on peut venir te voir sur le terrain vague, sur Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Ontario.
Entre Ontario et Sherbrooke, sur Saint-Laurent, du côté est de Saint-Laurent.
Donc, c'est un rendez-vous. Si vous passez par là, venez voir la vigile. Puis, Mario, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi matin.
C'est un grand plaisir, Blandine.
Merci. Bye. Alors, on était avec Mario Paquette, donc qui est un itinérant qui vit et est actif politiquement donc sur la rue Saint-Laurent. Puis on parlera avec lui dans la donc le jeudi matin à 6h du matin pour le marathon des sans-abri. C'est la 9e édition de ce marathon. C'est une activité de radiodiffusion de 14h. Alors c'est diffusé à travers le Canada, donc entre 5h du soir mercredi soir, donc le 23 février, et 7h du matin, le 24 février. Il va y avoir 14 heures de radiodiffusion, majoritairement diffusée à partir de Montréal, mais aussi à partir de Vancouver et de Halifax. Ça va être chaque heure à une thématique. Par exemple, l'heure d'ouverture, c'est micro ouvert pour les femmes des Premières Nations. Il va y avoir des heures sur les luttes logement, sur les solutions communautaires à l'itinérance, sur la communauté gay et lesbienne dans l'itinérance, et bien d'autres sujet. À partir de 2h du matin, donc jeudi, ça va être diffusé sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, donc vous pourrez nous écouter. Et notamment le bloc francophone, donc francophone exclusivement, entre 5h et 7h du matin. Donc à 5h du matin, ça sera l'organisation autonome parmi les sans-abri et les pauvres, avec les 10 ans du Squat Overdale et Préfontaine à Montréal et plus. Et à 6h du matin, donc de 6h à 7h, j'aurai moi-même le plaisir d'animer un panel où il y aura notamment Mario Paquette, Pascal Chaumont, qui viendra de passer 3 jours de tourisme d'itinérance pour se mettre dans l'ambiance de sa chanson. Et aussi du monde du journal L'Itinéraire. Alors, on aura l'occasion de parler de l'art et de la vie des rues de Montréal. Pas seulement parler des besoins, mais aussi parler de comment s'expriment ces besoins et ces réalités dans les activités politiques et sociales qui ont lieu dans la rue. Un côté relativement méconnu pour nous, les passants, qui ne font qu'y passer. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le site de sécurité, sécurité.ca, vous pouvez avoir des informations sur le marathon des sans-abri. Sinon, vous nous écouterez jeudi matin sur les ondes de Radio Centre-Ville. On va prendre une petite pause publicitaire.
Muñequita, psst, 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 Voltea, que no me oyes.
Sais-tu ce que cache la confection d'une paire de jeans?
Le monologue de la Maquila.
Une farce musicale en 9 sessions et un acte qui raconte la vie des femmes ouvrières dans les usines maquiladora.
Une coproduction Québec-Mexique.
Du 2 au 6 mars à 20h, le dimanche à 15h.
Au mai, Montréal, art interculturel, 3680 rue Jean-Mange. Réservation, 514-1032-3386.
Et toi, jusqu'où irais-tu pour obtenir un pantalon à la mode?
Le monologue de la Maquila, toute une expérience théâtrale.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Wide Awake, samedi matin à 9h à 10h.
Il y a 4 éléments.
Le cavalcade de Big Band avec Jerry Friedlansky.
Le programme pour déjeuner.
Des informations sur la santé alternative.
Et ça finit avec les livres parlés.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Les Montréalais et Montréalaises de toute origine échangent sur Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'émission En bas à gauche. Et cette deuxième partie de l'émission qui, comme on vous le disait plus tôt, est dédiée à la lutte pour le droit au logement. une lutte qui se mène au Québec actuellement sur deux fronts. Donc, d'un côté, dans le cadre de la modification de la loi sur la régie au logement, le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec exige que soit créé un registre des baux. Un registre des baux qui pourrait être consulté en ligne, ce qui permettrait à tout locataire de connaître le loyer payé par ses prédécesseurs à l'heure de signer un nouveau bail, donc pour éviter les augmentations de loyer faramineuses que les propriétaires n'hésitent pas à faire habituellement lorsqu'ils changent de locataire. Donc ça, c'est un des fronts de lutte. L'autre front, c'est en vue du prochain budget du gouvernement Charest, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, donc le FRAPRU, demande que soit inclus le financement de 50 000 logements sociaux sur 5 ans. Donc, on va en apprendre plus sur cette mobilisation en suivant la caravane du FRAPRU qui s'est déroulée dans la province entre le 14 et le 19 février. Pour l'instant, on commence par un très court reportage audio réalisé par l'équipe de Voix de fait qui diffuse sur les ondes de CKIA, la Radio communautaire de Québec. Vous entendrez Jonathan Carmackel et Nicole Dionne du Bureau d'animation et information logement, le BAIL, lors d'un rassemblement devant les bureaux du ministre des Affaires municipales à Québec le 10 février.
À gauche. Enjeux et mobilisation.
On a appris qu'il y avait une réforme de la régie du logement qui s'en venait dans les prochains mois. Donc, pour nous autres, c'est clair, ça va être une belle occasion de réclamer. Ben, que les autres.
Ça sera une belle occasion pour nous autres de réclamer qu'il y ait un contrôle des loyers pour contrôler les hausses abusives de loyers. Fait que là, il va y avoir des luttes à mener là-dessus. Une des revendications qu'on va porter bien fort, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est le registre des baux. Fait que là, je vais vous demander d'accueillir Nicole Dionne du Bureau d'animation information logement, le BAIL, qui va venir nous jaser un peu sur le registre des baux.
Alors, je disais que le registre des baux, ce qu'on veut, nous, les locataires, c'est que de se donner un outil qui soit accessible à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est de connaître le prix le plus bas payé du logement convoité. Parce qu'on sait que les propriétaires profitent beaucoup du changement de locataire pour hausser de façon faramineuse le coût des loyers, comme Jonathan vous l'a expliqué. Donc, ce qu'on veut, c'est que les locataires puissent avoir, via Internet, accès à l'information, le prix du loyer et les services. Donc, ça va vous donner une idée de ce que vaut vraiment votre logement actuellement. Il est capable de dénégocier avec le propriétaire, mais au moins aussi pouvoir faire valoir vos droits. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On pense que c'est un outil qui est primordial pour le droit des locataires et c'est une façon pour nous de bonifier et d'améliorer le contrôle minimal qu'on a actuellement au niveau du logement. Nous, on dit qu'il n'y a pas de réforme possible tant et aussi longtemps qu'on n'y retrouvera pas de façon claire l'instauration d'un registre des baux. Alors, c'est pour ça qu'on est ici. C'est que la réforme de la régie du logement et de la loi sur la régie du logement, c'est des éléments importants. Il va falloir rester très, très attentif sur ce qui s'en vient pour nous et pour les locataires en général. Donc, aujourd'hui, on va porter des fils de branchement pour demander à M. Lessard de se brancher sur un registre des baux. On attend ça depuis maintenant 30 ans. Et aujourd'hui, les raisons qui nous servaient pour refuser de nous donner raison ou gain de cause, c'était des raisons technologiques. Ça coûtait trop cher. Alors maintenant, c'est impossible de nous tenir ces arguments. Internet est accessible à tout un chacun. Et l'instauration de registre serait facile et peu coûteux. Alors voilà, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure à Monsieur le ministre.
Pour faire un déménagement, mon proprio fait 20 l'argent.
Pour faire un déménagement, mon proprio.
Acquérir, développer, exproprier, un coup de main aux ménagers.
Donc, pour plus d'informations sur la campagne en faveur d'un registre des baux, vous pouvez consulter le site web du regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec au www.rclalq. Donc, regroupement, comité, logement et associations et locataires du Québec, rclalq.qc.ca. Donc, maintenant, on se tourne vers les mobilisations du FRAPRU. Les fidèles auditrices et les fidèles auditeurs se souviendront peut-être de l'entrevue que nous avions réalisée avec Marie-Josée Corriveau du Frappru, donc il y a une dizaine de jours, pour annoncer la caravane pour le logement social. Cette caravane réclamant pour le prochain budget bâchant le financement de 50 000 logements sociaux en 5 ans a débuté à Gatineau le 14 février dernier et s'est clôturée par une manifestation d'un millier de personnes dans la ville de Québec le 19 février dernier. La caravane a été ponctuée d'actions symboliques, d'événements publics et de manifestations dans plusieurs villes du Québec, dont Gatineau, Montréal, Châteauguay, Sherbrooke, Trois-Rivières, Latuc et Saguenay. Tout au long de la caravane, les membres du Frappru ont réalisé de courtes capsules web pour documenter le passage de la caravane dans les différents lieux. Donc, c'est une invitation, si vous voulez regarder les courts reportages qui ont été mis en ligne sur YouTube à travers du site web du Frappru, vous pouvez le voir au www.frappru.qc.ca. Donc, l'équipe de En bas à gauche a réalisé pour vous un petit montage audio à partir des capsules web qui ont été faites par le Frappru. Donc, le reportage audio que vous allez entendre débute par un extrait de la conférence de presse qui a été réalisée par le Frappru le 11 février pour annoncer le lancement officiel de la caravane. Vous entendrez Abdoulaye Diallo, un militant du Frappru qui témoigne de sa situation précaire, ainsi que François Saillant du Frappru. Ce sera suivi d'un enregistrement réalisé à Gatineau le 14 février lors du départ officiel de la caravane. Pour l'occasion, le groupe du Frappru en Outaouais, le Logement Occupe, a réalisé une appropriation symbolique d'un terrain. Un panneau géant, l'image de ceux utilisés par le gouvernement québécois pour annoncer ses investissements, y a été installé pour demander le financement de 50 000 logements sociaux en 5 ans, dont 1 400 à Gatineau même. On écoutera par la suite un enregistrement de la manifestation qui a eu lieu à Montréal le 14 février dernier. Les membres du Frappru ont alors occupé le bâtiment à moitié vacant du très controversé îlot voyageur, aujourd'hui propriété du gouvernement du Québec. Les militantes y ont accroché une bannière géante réclamant 22 500 logements sociaux en 5 ans dans la ville de Montréal. Et finalement, le reportage se termine à Latuc, le 17 février, où les membres du Frappru ont symboliquement transformé le bureau de comté de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Julie Boulet, en logement social en y déroulant une bannière géante. Donc, bonne écoute.
Les soirées, les proprios, dans le même lit, dans le même bateau!
Les soirées, les proprios, dans le même lit, dans le même bateau!
On a appris qu'il y avait une réforme, la régie du logement qui s'en venait dans les prochains mois. Donc, pour nous autres, c'est clair, ça va être une belle occasion de réclamer...
Qu'il y a un contrôle des loyers pour contrôler les hausses abusives de loyers. Fait que là, il va y avoir des luttes à mener là-dessus. Une des revendications qu'on va porter bien fort, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est le registre des bons. Fait que là, je vais vous demander d'accueillir Nicole Dionne du Bureau d'animation, information, logement, le BAI, qui va venir nous jaser un peu sur le registre des bons.
Alors, je disais que le registre des bons, ce qu'on veut, nous, les locataires, c'est que de se donner un outil qui soit accessible à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est de connaître le prix le plus bas payé du logement convoité. Parce qu'on sait que les propriétaires profitent beaucoup du changement de locataire pour hausser de façon faramineuse le coût des loyers, comme Jonathan vous l'a expliqué.
Acquérir, développer, exproprier, un coup de main au mal logé!
Acquérir, développer, exproprier, un coup de main au mal logé!
En ce moment, on vit dans un 4,5. J'ai une fille et un garçon. Et chacun, normalement, doit avoir une chambre. Mais on a juste une chambre pour le petit, pour le garçon qui a 9 ans et l'autre a 5 ans. On vit avec celle-ci dans la même chambre. Et si nous payons près de 65% de revenus pour juste le loyer, et c'est vraiment énorme en fait. Et moi actuellement je ne travaille presque pas, on va dire, parce que je travaille à la tâche. C'est ma femme qui a un emploi fixe, mais là aussi C'est pas vraiment parce que ma fille a des allergies sur l'humidité. Il y a l'humidité un peu partout. À chaque année, on essaie de peinturer, mais ça revient toujours.
Il y a de la moisissure dans le.
Il y a de la moisissure aussi au niveau des fenêtres et quelquefois au niveau de la porte aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? On reste là, on n'a pas le choix en ce moment. Là, ce qui fait que depuis 8 ans, on cherche un logement social. Marjolaine peut témoigner. Depuis près bientôt 6 ans, je suis avec le comité de logement pour chercher un logement social. J'arrive pas à trouver encore. Jusqu'à date, je ne trouve pas encore. Et c'est l'une des raisons fondamentales qui ont fait que je vais participer à la caravane.
Une caravane qui, pendant, jusqu'à la fin de la semaine, va se promener à travers le Québec, va littéralement sillonner le Québec pour faire la promotion du logement social et pour demander que le prochain budget du gouvernement du Québec comprenne des investissements importants, récurrents, qui soient à la hauteur des besoins en logement social. Donc la caravane, elle a cet objectif-là. L'année passée, le ministre Bachand avait annoncé le financement de 3 000 logements sociaux dans son budget de l'année passée, mais en laissant entendre ici ce que disait aussi le plan de lutte contre la pauvreté, que ces investissements-là étaient valables pour une période de 5 ans. Donc 3 000 logements pour 5 ans. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est que le prochain budget comprennent des investissements en logement social, qu'on n'attende pas 5 ans avant d'avoir d'autres logements, ou qu'on n'attende pas 2 ans, ça les prend immédiatement. Parce que les 3 000 logements qui ont été annoncés dans le budget de l'année passée, ben, ces 3 000 logements-là, il n'y en a plus. Ils ont déjà été réservés pour des projets de logement social, et la conséquence, c'est que si jamais il n'y avait pas d'autres annonces de fait, ça veut dire qu'on vient d'arrêter dans du logement social, ce qui pour nous autres, évidemment, serait catastrophique. Donc, on veut qu'il y ait des investissements. Ce qu'on veut aussi, c'est que ces investissements-là soient faits pour plusieurs années. C'est-à-dire qu'on annonce un grand nombre de logements qui pourraient être réalisés au cours des années à venir. Et donc, quelque chose qui est récurrent et pas quelque chose qu'on est obligé de demander littéralement chaque année, de vivre dans l'incertitude à chaque année, à savoir est-ce qu'il va y avoir des logements sociaux dans le budget de l'année prochaine. On veut une annonce à plus long terme que ça. Ce qui n'est pas gagné. Et nous autres, le ferait plus, compte tenu de la gravité des problèmes, ce qu'on revendique, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur nos dossards, c'est 50 000 logements sociaux sur une période de 5 ans. On pense que ça se justifie amplement quand on sait qu'il y a tout près de 261 000 ménages locataires québécois qui ont tiré même du gouvernement, c'est pas le ferait plus qui invente ce chiffre-là. Selon le gouvernement lui-même, il y a 261 000 ménages qui ont des besoins impérieux de logement, soit parce qu'ils prennent trop cher pour se loger, soit parce qu'ils mettent un logement de mauvaise qualité, soit parce qu'ils mettent un logement trop petit, ou parce qu'ils ont tous ces problèmes-là mis ensemble. Des organismes qui interviennent auprès des personnes itinérantes, comme le réseau Solidarité itinérante ou le réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, évaluent à 30 000 le nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance. Et par ailleurs, on sait que même si la pénurie générale de logements locatifs tend à se résorber, bien, il y a encore pénurie dans plusieurs régions, notamment à Québec, dans la capitale nationale, il y a une pénurie très grave de logements. Il y a une pénurie encore plus sérieuse et dramatique en Abitibi, où les trois villes principales de l'Abitibi, il y a à peu près pas de logements alloués. Dans le cas de Val-d'Or, il n'y en a pas juste à peu près pas, il y en a tout simplement pas de logements qui sont alloués, et c'est rendu que ça touche la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est pour cette raison-là, parce qu'on veut des investissements dans le budget, que ces investissements-là soient importants, et que notre demande, c'est 50 000 logements, qu'on a mis sur pied ce projet-là de caravane.
Dans le budget pour du logement social.
On ne peut pas se permettre, les logements qui ont été annoncés l'année passée, ils sont déjà tout écroulés. Si on veut que le développement du logement social continue à Gatineau, mais aussi ailleurs au Québec, ben ça prend de nouveaux logements sociaux, et si rien dans le budget, ben ça veut dire la fin de tout ça. Et ça, on l'acceptera pas, c'est faire.
HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien.
On est venu aujourd'hui au bureau de la ministre de la Solidarité sociale, Madame Julie Boulet. Madame Boulet est responsable du plan de lutte contre la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle on est devant ces bureaux, et c'est la raison pour laquelle on va poser un geste symbolique. Vous savez que dans le dernier budget du gouvernement du Québec, dans le dernier plan de lutte contre la pauvreté, on annonçait 3 000 logements sociaux. Mais 3 000 logements sociaux pour toute la durée du plan de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire 5 ans. Évidemment, ces 3 000 logements-là, il n'y en a plus présentement. Ça prend des nouveaux logements, ça en prend beaucoup. Et ce qu'on peut demander à Mme Boulet, c'est de s'assurer que le budget du gouvernement du Québec, que le prochain budget, va réparer les lacunes du plan de lutte à la pauvreté, qui va investir à long terme et des sommes importantes en logement social. Et c'est pour cela qu'on va poser un geste symbolique devant le bureau de Mme Boulet.
Aussi, on voit souvent des gens avec le revenu qui vont louer des loyers pas chers. Ils sont certains qu'ils ont trouvé un bon logement qui convient à leur situation financière. Mais ils finissent par payer le double en électricité parce que le loyer n'est pas bien isolé. On a besoin de logements sociaux de qualité.
Alors, c'était un montage audio des capsules web réalisées par Le Frappru lors de la caravane pour le logement social. Ces reportages vidéo, je vous le rappelle, sont disponibles sur le site web du Frappru, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, donc www.frappru.qc.ca, www.frappru.qc.ca. Et donc, comme je vous le disais plus tôt, la caravane s'est terminée par une grande manifestation à Québec le 19 février dernier. Ce sont près de 1000 personnes qui sont descendues des quatre coins du Québec pour participer à l'événement. La marche s'est terminée devant le ministère des Finances où une vingtaine de tentes rouges ont été installées pour symboliser l'urgence des problèmes de logement et d'itinérance. Dans le montage audio, seulement vous mentionnez que vous avez entendu chanter Kadour Adadi, alias HK et les Saltimbanques. C'était la chanson « On lâche rien » de leur premier album « Citoyens du monde ». Et vous mentionnez également que la prochaine action du Frappru se déroulera le 12 mars prochain, alors que les membres se joindront à la manifestation nationale organisée conjointement par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et l'Alliance sociale. Le rassemblement aura lieu à midi à la Place du Canada, donc entre le métro Peel et le métro Bonaventure. Donc, un rendez-vous à midi le 12 mars. Donc, on vous invite à écouter la capsule préparée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et l'Alliance sociale, une capsule destinée à mobiliser pour la manifestation du 12 mars.
Le gouvernement nous dit qu'on n'a pas le choix, que le Québec est dans le rouge, que la population vieillit, qu'il faut couper dans les services, il faut recourir de plus en plus au privé, il faut réduire les dépenses sociales, tarifer tout azimut.
Pourtant, des alternatives progressistes et réalistes, ça existe. Des solutions qui incarnent les valeurs de solidarité, de partage de la richesse des Québécoises et des Québécois. Un budget équitable, c'est une question de choix.
Parce que la politique du déficit zéro à très court terme se fait sur le dos des femmes, des pauvres et de la classe moyenne, nous devons en reporter l'échéancier. C'est une question de choix.
Parce que la tarification fait augmenter les inégalités sociales.
Parce que l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus équitable.
Les riches doivent payer plus. Les entreprises doivent contribuer leur juste part.
C'est une question de choix.
Parce que nous avons besoin d'emplois de qualité.
Le gouvernement doit mettre en place une véritable stratégie économique axée sur le développement durable et sur les énergies renouvelables.
C'est une question de choix.
Parce que hausser les frais de scolarité, c'est mettre en péril l'accès aux études universitaires.
Il faut s'opposer à toute nouvelle hausse et faire de l'éducation une priorité nationale.
C'est une question de choix.
Parce que la taxe santé de 200 $ par personne par année, peu importe le revenu, est une mesure profondément inéquitable.
Il faut l'abolir. C'est une question de choix.
Parce que la construction en PPP coûte plus cher.
Parce que le recours au privé dans nos hôpitaux coûte plus cher.
Il faut arrêter de privatiser.
C'est une question de choix.
Parce que nos services publics et nos programmes sociaux représentent un bien commun précieux et améliorent notre qualité de vie.
Nous devons les préserver.
C'est une question de choix.
Parce que seulement dans la fonction publique, les dépenses en sous-traitance ont augmenté de quelques 2 milliards de dollars entre 2003 et 2009.
Il faut cesser d'y avoir recours. C'est une question de choix.
Parce que le budget du Québec touche tout le monde.
Les femmes.
Les personnes pauvres.
Les mal logés.
Les sans-emploi.
Les personnes malades.
Les étudiants et les étudiantes.
Les travailleuses et les travailleurs.
Les retraités.
Les familles monoparentales.
La classe moyenne.
Le 12 mars, manifestons ensemble.
C'est une question de choix.
Alors, on vous rappelle que c'est une capsule préparée par l'Alliance sociale et la Coalition contre la tarification qui a pour but de mobiliser. Alors, c'était juste audio, mais quand on a le visuel, on peut quand même voir qui sont les gens qui parlent. Alors, d'après toi, Maude, qui sont les gens qui parlent dans cette capsule?
Bien, j'imagine que ce sont tous les syndicats, associations étudiantes et en fait toutes les associations membres de la coalition.
Tout à fait. Mais c'est quand même un processus assez amusant qui va avec la création de ce genre de capsule. D'après toi, qu'est-ce qui détermine le temps d'antenne de chaque personne dans la capsule de 2 minutes?
Leur âge?
Pas tout à fait. Encore un essai?
Le nombre de membres de chaque syndicat ou chaque association?
Bon, alors ça peut avoir un lien quand même avec leur budget, mais c'est pas mal plus leur budget en fait qui détermine leur visibilité. Alors c'était quand même un peu drôle à voir. Donc on souhaite une belle manifestation et on y sera quand même le 12 mars, mais on se permet quelques blagues sur le mode publicitaire utilisé par les grandes centrales et leur système de faisage de vidéos.
Ils ont des experts marketing, je pense, pour faire la stratégie publicitaire.
C'est pour ça qu'on a l'impression de se faire vendre une boîte de céréales ou un investissement au Fonds de solidarité de la FTQ en se faisant mobiliser pour manifester. Mais comme disaient nos amis de Voix de fait, il paraît qu'il va y avoir une deuxième version de capsule qui va être plus faite pour un autre public cible. Alors peut-être qu'on va se sentir plus ciblé par la deuxième version de la capsule.
C'est ce qu'on verra. On vous la rediffusera ici.
S'ils mettent un petit peu de tam-tam puis de tambour, là, je suis sûre qu'on va se sentir plus motivé.
Fait que pour finir cette édition de En bas à gauche, on va passer au à l'anti-hebdo. Alors juste quelques événements rapidement. On vous rappelle aussi, si vous voulez voir plus d'événements qui ont lieu à Montréal, vous pouvez aller sur le site web de l'agendamilitant.info ou le cemac.net Indimedia Québec pour avoir tous les événements. Demain soir, c'est la 5e séance du Ciné-Club du DIRA, la bibliothèque anarchiste à Montréal. Donc mercredi 23 février à 18h30 au 2035 boulevard Saint-Laurent, qui est juste à côté de où est-ce qu'est la vigile de Mario dont on parlait plus tôt. Et donc vous pouvez faire une double visite. Ça va être donc une séance qui va passer un film de Luc Mouillet, L'Indomptable. Et vous pouvez aller voir sur leur site web bibliodira.org pour avoir des détails sur le film. Jeudi 24 février, projection du film France Fanon, sa vie, ses lettres, son ouvrage, donc de 18h à 21h à l'UQAM, la salle SH3420. Alors bon courage pour trouver le SH. Non, d'accord, je vais vous donner un cue, c'est au 200 Sherbrooke West, donc c'est le pavillon Sherbrooke. Donc c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ça va être cette diffusion là qui va avoir lieu, donc qui un film qui retrace le parcours de vie intense d'un des plus grands penseurs du 20e siècle, nous dit la description.
Surtout un des plus grandes têtes d'affiche ou plus grands intellectuels du mouvement anticolonial, pour lui faire honneur.
Tout à fait. Pour décrire un petit peu plus, il nous reste un petit 2 minutes. Donc, France Fanon, psychiatre martiniquais, est devenu porte-parole de la révolution algérienne contre le colonialisme français. Son expérience du racisme le pousse à des politiques radicales en faveur de la révolution algérienne par un renouveau de la psychiatrie, l'existentialisme sartrien et la philosophie de la conscience noire. C'est toute une description.
Oui, mais en fait, ces livres sont plus agréables à lire, je pense, que cette description-là, parce que c'est des livres qui se lisent quand même très bien.
Alors, je pense que Maud vous recommande chaudement d'aller voir le film, donc jeudi 24 février de 18h à 21h. Et vendredi, pour donc finir cet anti-hebdo, ça va être dans le cadre des rendez-vous de la maison Normand Béthune, une soirée sur Moumia Abou Jamal, prisonnier politique au cœur de la bête. Jeune militant du Black Panther Party à Philadelphie, Moumia Abou Jamal est grièvement blessé lors d'une fusillade durant laquelle un agent de police est également abattu. Au terme d'une enquête bâclée d'un procès teinté de racisme, Moumia est condamné à la peine de mort pour le meurtre du policier. 20 ans plus tard, en 2001, un juge fédéral commue la sentence de mort en prison à vie. L'État de Pennsylvanie fait appel de cette décision. La Cour d'appel rendra sa décision d'ici quelques semaines et pourrait rétablir la sentence de mort. Durant tout le mois de mars, des groupes militants de la région de Montréal feront une campagne pour la libération de ce combattant révolutionnaire. Alors, vendredi 25 février à 19h au 1918 rue Frontenac à Montréal, à la librairie Normand Béthune. Plus d'informations, maisonnormandbéthune.ca. C'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche.
Oui, on vous invite, si vous voulez réécouter notre émission ou les anciennes émissions ou même réutiliser du contenu de nos émissions pour vos propres émissions ou pour mettre en ligne sur vos sites web, vos blogs, on vous invite à consulter notre blog qui est sur WordPress, donc en bas à gauche, wordpress.com. Vous y trouverez toutes nos chroniques audio, mais également de l'information, des textes écrits et des liens, des références pour appuyer nos chroniques. Alors sur ce, bonne semaine et restez sur les ondes de radio.
Latinordicos, une émission où l'on fait la rencontre d'activistes, d'écrivains, de poètes et autres artistes venus partager leur soif de la révolution. Dimanche, de 11h à 11h30, avec votre animateur Mauricio Duran. Latinordicos, sur les ondes de Radio Centreville 102,3 FM.
Spécial du jour. Ce que nous avons au menu, la joie, de la joie et encore de la joie. Alors écoutez-nous tous les mercredis soirs de 22h30 à 23h30. Spécial du jour.
Que vous soyez charpentier, soudeur ou cuisinier,
bon appétit! Si vous suivez une formation d'apprenti dans l'un des 53 métiers désignés Sceau Rouge, vous pourriez obtenir jusqu'à 4 000 en subvention du gouvernement fédéral. Une aide qui pourrait faire toute la différence. Faites votre demande dès aujourd'hui à plandaction.gc.ca/apprenti ou composez le 1-800-AU-CANADA. Un message du gouvernement du Canada.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.